Voici une question dont la réponse mérite vraiment toute notre attention. Est-ce que l'enfer existe? Les Saintes Écritures vont nous enseigner la vérité tout en nous donnant une réponse bouleversante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a vraiment des questions intéressantes à poser à la parole de Dieu une fois de plus aujourd'hui. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Les voici donc. Devrions-nous méditer davantage sur l'ascension et le règne céleste de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus a éprouvé de la joie en accomplissant notre salut? Est-ce que Dieu a exaucé toutes les prières de Jésus? Est-ce que l'enfer existe réellement? Est-ce que Jésus est dans la joie présentement? Est-ce qu'il va juger le monde un jour? Est-ce possible que nous ayons été avec Jésus sur la croix quand il a été fait péché pour nous? Est-ce que Jésus a été abandonné par Dieu quand il était sur la croix? Restez avec nous. Dieu va répondre à toutes nos questions avec clarté, avec précision. Il va répondre par sa parole et par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien comprendre ce bon enseignement qu'il va nous donner. Prions. Ô Seigneur, on vient dans ta présence et on désire vraiment que tu disposes nos cœurs à bien comprendre ton enseignement, à bien le comprendre, à le méditer, à le mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, c'est ta parole et on veut vraiment la recevoir et l'utiliser pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Aujourd'hui, nous examinons le psaume 21, que je considère aussi un psaume messianique, quoiqu'il ne soit pas cité dans le Nouveau Testament comme se référant au Seigneur Jésus. Mais, en le lisant, nous percevons qu'il peut très bien s'appliquer au Seigneur Jésus. Dès le début, Israël a toujours affirmé que ce psaume parle du Messie. Le Targum, une paraphrase chaldéenne de l'Ancien Testament, et le Talmud enseignent que le roi mentionné dans ce psaume est le Messie. Salomon Isaacsi, un érudit spécialiste du Talmud, connu sous le nom de Rashi, est né en l'an 1040, approuvait cette interprétation, mais il a suggéré qu'elle soit mise de côté, car le christianisme utilisait ce psaume pour démontrer que Jésus-Christ est le Messie. Donc, nous avons de nombreux témoignages appuyant la thèse que ce psaume parle de Jésus-Christ. Méditons-nous sur l'ascension et le règne céleste du Seigneur Jésus? Ce psaume est aussi utilisé par les religions qui ont une liturgie selon laquelle ils observent des jours, et ce psaume est lu le jour de l'Ascension. Il sert à commémorer ce jour où Jésus est retourné dans sa gloire pour y faire office de grand prêtre pour nous. Je me demande pourquoi nous, les fondamentalistes, nous nous intéressons si peu à l'Ascension. Nous observons Noël, la Pâque et le jour de la Pentecôte, mais nous ne pensons pas à l'Ascension. Bien avec ce psaume, nous avons l'occasion de méditer cet événement de la vie du Seigneur Jésus. Nous verrons qu'il règne au ciel, et nous verrons le jugement qui frappera ceux qui le rejettent. Le texte identifie David comme étant l'auteur du psaume, et il comprend le futur règne de Christ sur terre. Ce psaume était utilisé lors de l'adoration au temple. Le psaume, ayant une application immédiate à David, regarde tout de même au futur roi messianique. Chers amis, débutons la lecture du psaume 21, versets 1 et 2. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse! David décrit une expérience personnelle, mais le psaume a une note prophétique concernant Jésus-Christ. Cependant, un pays dont le chef et ses ministres craignent Dieu est béni. Christ règne à la droite de Dieu. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci au sujet de Jésus. En échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ensuite, il est monté au ciel et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce verset parle de la joie qu'a éprouvé le Seigneur Jésus en accomplissant notre salut. Il se réjouit de la protection puissante et du secours qu'il a obtenu en le faisant. Il est monté au ciel et les anges lui sont soumis. Aujourd'hui, il peut sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu en passant par lui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux chapitre 7, verset 25. Notez que les Écritures ne répriment pas les émotions. Le chef suprême de l'Église règne dans la joie. Ses serviteurs peuvent et devraient refléter cette joie. Cette joie qui découle d'une relation personnelle avec Dieu, dans la présence duquel nous pouvons venir en toute liberté. Verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Pause. Les prières de Jésus furent répondues. Lorsque Jésus s'est adressé à Dieu lors de sa prière sacerdotale, il a dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jean chapitre 17, verset 1er. Cette prière, ainsi que toutes les autres requêtes de Jésus, furent répondues, comme nous le voyons dans la prière de ce psaume. C'est une prière d'ascension. Le Seigneur est à la droite de Dieu. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Lorsqu'il était sur terre, le Seigneur pouvait dire, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jean chapitre 17, verset 24. Cette prière sera répondue dans l'avenir alors que nous serons avec lui, tous les véritables croyants. Il est venu sur terre afin que cela devienne possible. Le Père n'a pas refusé cette requête à son Fils. Pause. C'est le petit mot qui nous rappelle de méditer sur ce que nous venons de dire. Poursuivons notre lecture, versets 4 à 7. « Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction, tu le combles de joie devant ta face. » Chers amis, glorifions Jésus qui nous a sauvés. Le Seigneur Jésus est venu sur terre afin de donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Sur terre, il était dans un état d'humiliation et il priait constamment. Il a agonisé dans le jardin de Gethsémané. Au psaume 102, versets 24 et 25, nous lisons ceci au sujet du Seigneur. « Il a brisé ma force dans la route. » Il a abrégé mes jours. Je dis, « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. » Il a demandé la vie. Il est mort dans la force de l'âge à 33 ans. Il a prié ainsi, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc chapitre 22, verset 42. Les Écritures ajoutent, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Hébreux chapitre 5, verset 7. Oui, Jésus est mort. Comment Dieu a-t-il pu répondre à sa prière? En le ressuscitant d'entre les morts. Maintenant, Jésus vit éternellement avec un corps glorifié. Il est maintenant à la droite de Dieu. Sa gloire est grande à cause de ton secours. nous devons vraiment le glorifier parce qu'il nous a sauvés. Versets 8 à 10. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Chers amis, un jour, tous croiront à l'enfer. Non seulement le Seigneur est-il le Dieu de notre salut, mais à cause de sa mort, expiatoire à la croix, il est aussi un Dieu qui juge et condamne. Ceux qui le rejettent sont ses ennemis. Vous ne croyez pas à l'enfer? La Bible en parle. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu. Certains affirment ne pas croire à l'enfer malgré que nous leur montrions ce qu'enseigne la Bible. Un jour, tous croiront à l'enfer. Ce n'est pas un sujet plaisant, mais qui a dit qu'il devait l'être? Dieu ne prend pas plaisir à condamner qui que ce soit. Il veut sauver les hommes et il a accompli une œuvre salvatrice merveilleuse. Si vous ne venez pas à Dieu en passant par Jésus-Christ, si vous ne voulez pas de son salut, alors c'est pour être condamné que vous comparaîtrez un jour devant lui. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Ce verset est clair. Un jugement, c'est un jugement. Les ennemis de Dieu sont les mêmes depuis tous les âges. Tous ceux qui haïssent Dieu, ceux qui haïssent le Seigneur Jésus, ceux qui haïssent la loi de Dieu seront jugés. Cette haine est sans cause. Rien ne la justifie. Versets 11 à 14. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Dans ce psaume touchant, nous voyons les souffrances et la croix du Seigneur Jésus. Il a souffert la croix, en échange de la joie qui lui était réservée. Hébreux chapitre 12, verset 2. Ses prières furent exaucées. Maintenant, le roi est aux cieux. Nous le voyons couvert de gloire et d'honneur. Il y est et il intercède pour les siens. Il y est dans une grande joie en attendant le jour où il manifestera sa royauté glorieuse. Oui, chers amis, Jésus est assis à la droite de Dieu et son cœur déborde de joie. J'aimerais vous donner une autre image du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. La première fois qu'il est venu sur terre, il était un homme de douleur qui connaissait la souffrance. Quelqu'un pourrait dire, « Toutes les images que j'ai vues de Jésus-Christ lui donnent un air solennel et sérieux. » Je ne me soucie pas des images que l'on a faites du Seigneur, et je sais qu'il ne ressemble pas à aucune d'elles aujourd'hui. Il est assis à la droite de Dieu et son cœur déborde de joie. Il veut nous transmettre cette joie. Si nous pouvions le voir tel qu'il est aujourd'hui. Lorsque le Seigneur était sur terre, ses ennemis complotèrent contre lui, mais il a mis sa confiance dans Yahweh. Dans la vision de l'apôtre Jean, rapportée dans l'Apocalypse, chapitre 12, le dragon qui représente Satan veut dévorer l'enfant mâle qui représente le Seigneur Jésus. La femme, c'est Israël. Avant que le dragon puisse dévorer l'enfant, il fut enlevé et conduit au trône de Dieu. C'est là qu'il est présentement. Jésus jugera le monde. Ce psaume nous donne aussi un aperçu du jugement, sujet sur lequel l'Apocalypse élabore beaucoup. C'est une image grave que nous avons devant nous. Paul aussi touche le sujet dans l'Épître aux Thessaloniciens. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 7 et 8. Nous avons un portrait du Seigneur Jésus qui jugera ses ennemis. Les deux versets suivants disent, « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. » 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 9 et 10. Le psaume dit, « Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. » Les méchants pratiquent le mal, mais leurs intentions sont pires que leurs actions. Le méchant s'oppose à Dieu en vain. Il sera le vainqueur. Les méchants tenteront de fuir devant Dieu, mais ils n'auront où aller. Un homme pieux est l'opposé du méchant. Il aime Dieu, il aime le peuple de Dieu, il aime l'Église du Christ. Cet amour se voit. Chers amis, quelle est votre relation avec Jésus aujourd'hui? Ce psaume glorieux traite de l'ascension du Seigneur. Quelle est votre relation avec lui? S'il n'est pas votre Sauveur, si vous n'avez pas mis votre confiance en celui qui est mort pour vous, alors vous devrez faire face à la condamnation éternelle un jour. Mais aujourd'hui, il est dans la joie à la droite de son Père, et ce, parce qu'il a pourvu un moyen de salut pour nous. Ce psaume révèle la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer au psaume 22, mais nous n'examinerons que le premier verset, et je ne ferai que quelques réflexions. Nous verrons le psaume à la prochaine émission, et je vous invite donc à le lire d'ici là. Ce psaume décrit la crucifixion plus minutieusement que toutes les autres portions des Écritures qui en parlent. Il correspond au chapitre 22 de la Genèse, le chapitre qui raconte que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, et au chapitre 53 d'Ésaïe, qui décrit aussi la crucifixion. Nous avons plusieurs psaumes messianiques qui nous décrivent le Seigneur Jésus. Par exemple, le psaume 1 décrit le caractère du Seigneur, qui il est, sa vie, ce qu'il a fait. Mais le psaume 22 nous fait pénétrer dans ses pensées et dans son cœur. Ce psaume traite de l'angoisse de sa passion. Son âme est exposée à nos yeux. Les évangiles contiennent les faits historiques de sa mort, ainsi que des événements connexes. Par contre, seul le psaume 22 nous fait pénétrer dans ses pensées. Certains érudits pensent que lorsqu'il était sur la croix, le Seigneur Jésus a cité entièrement ce psaume. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, partage cette opinion parce que les 7 paroles de Jésus à la croix se retrouvent dans ce psaume, ou encore nous y percevons l'arrière-plan psychologique des paroles. Jésus est l'échelle descendue du ciel qui permet aux hommes de monter vers Dieu. De nombreuses églises ont l'habitude de souligner le Vendredi Saint en invitant 7 pasteurs à donner chacun un message sur une des paroles que Jésus a prononcées à la croix. La dernière fois que j'ai participé à un tel exercice, j'ai prêché sur les mots « j'ai soif ». C'est toujours édifiant d'entendre ces sermons, et quelqu'un amène toujours une pensée profitable. Cependant, nous essaierons de traiter des 7 paroles dans un seul message. Mais plutôt que de se tenir au pied de la croix et de l'entendre prononcer ses dernières paroles, nous nous tiendrons à ses côtés, suspendus avec lui à la croix. Nous examinerons la croix d'une autre position, de la croix elle-même. Et nous regarderons avec lui vers le bas, vers ceux qui sont au pied de la croix, alors que le Seigneur y était pendu, et nous verrons ce qu'il y avait dans son cœur et dans ses pensées. nous verrons ce qui s'est produit dans son âme alors qu'il devenait le sacrifice pour nos péchés, pour les péchés du monde. Alors qu'il était suspendu à la croix, il est devenu l'échelle descendue du ciel qui permet aux hommes de monter vers Dieu. Nous étions avec le Seigneur Jésus sur la croix alors qu'il a été fait péché pour nous. Oui, chers amis, nous étions là, avec lui, sur cette croix, alors qu'il était fait péché pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous étions autant avec lui sur cette croix, alors qu'il est mort, autant que nous sommes en lui par la foi. Pierre a exprimé l'idée ainsi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Guéri du péché. Le psaume 22 débute avec le cri désespéré et plaintif d'un homme seul, abandonné par Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 22, versets 1 et 2. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Certains ont essayé d'adoucir ou d'atténuer la réalité du fait que Dieu a détourné son regard du Seigneur Jésus, qu'il a abandonné son Fils alors qu'il était sur la croix. Certains se sont basés sur la traduction syriaque de l'Ancien Testament pour suggérer que le texte devrait se lire plutôt « mon Dieu, je fus gardé pour cela ». Mais la traduction n'est pas fiable. Les textes hébreux, grecs et araméens sont clairs. Ils disent tous que le Seigneur Jésus fut abandonné par Dieu. L'araméen était la langue parlée en Palestine au temps de Jésus-Christ. Chers amis, nous avons ici un registre des souffrances humaines du Seigneur Jésus. C'est l'homme qui fut crucifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Citation de l'évangéliste Jean, chapitre 1, verset 29. L'épître aux Hébreux nous éclaire sur ce point. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Hébreux chapitre 2 verset 9. C'est ce que nous regardons. Celui qui a quitté sa gloire céleste pour devenir un homme. Il est devenu un homme pour nous révéler Dieu, c'est vrai, mais aussi, surtout pour racheter les hommes. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 2 verset 14. La mort expiatoire de Jésus nous sauve. Jésus ne pouvait pas sauver qui que ce soit par sa vie. C'est sa mort expiatoire qui nous sauve. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation du péché du peuple. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, psaume 22.
Oh, merci beaucoup, Régent. Quel bel enseignement. Merci, Seigneur. Et merci à toi, Régent, d'être le serviteur du Seigneur pour nous donner les réponses de Dieu avec clarté, avec simplicité à travers sa parole. Quel mets succulent on a reçu pour nos âmes une fois de plus aujourd'hui. Mes amis, quelle a été votre réaction quand Régent a mentionné que Jésus, le chef suprême de l'Église, règne dans la joie et que nous, ses serviteurs, devrions refléter cette joie qui découle d'une relation personnelle avec Dieu, dans la présence duquel nous pouvons venir en toute liberté. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand je pense que tout le monde peut avoir une relation personnelle avec Dieu et que tout le monde peut venir à lui en toute liberté, mais que ce n'est pas tout le monde qui en veut. C'est aussi facile pour un meurtrier, pourtant, de recevoir le salut gratuit de Dieu que ça l'a été pour moi le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour être sauvé. Et ça a été aussi facile pour moi, qui était quand même une grande pécheresse, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, ça a été aussi facile pour moi d'être sauvé que ça peut l'être pour les meilleures des personnes sur cette terre. Et même parfois, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour les bonnes personnes de recevoir le salut, parce que les bonnes personnes, celles qui font plein de bonnes œuvres, celles qui sont religieuses et qui ont toujours cru à l'existence de Jésus, celles qui ont souffert sans jamais se lamenter, ces bonnes personnes semblent avoir de la difficulté à reconnaître qu'elles aussi ont péché dans leur vie et que leurs œuvres ne pourront jamais les sauver. Je trouve ça tellement triste. Mon ami, si tu es une bonne personne comme celle que je viens de décrire, je t'invite, et crois-moi, c'est avec beaucoup d'amour dans mon cœur pour toi. Oui, je t'invite à voir avec moi ce que la Bible, la parole de Dieu, dit à ce sujet. Premièrement, Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toi aussi, mon ami, tu es un pécheur, une pécheresse, tout comme moi. Ensuite, dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8 et 9, Paul nous dit ceci. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et si on retourne à son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 24, il dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu, une pécheresse perdue. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Ses bras sont grands ouverts en ce moment pour t'accueillir dans sa belle et grande famille. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il dit dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, verset 12, qu'à tous ceux qui ont reçu sa parole, qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, crois-tu au nom de Jésus? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est écrit dans sa parole, fais-le, reçois Jésus comme sauveur, comme Seigneur.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.